Dans le camping, les soirées du lundi sont dignes de celles d'un samedi soir.
C'est à la France que fut confiée l'organisation du 10e rallye international de camping.
La zone la plus touchée, c'est celle du camping.
Radio Camping Paris.
C'est tout l'été, du lundi au jeudi, de 19h à 20h.
C'est la nouvelle trouvaille d'M6. Après les compétitions de shopping dans les reines du shopping, voici une boutique dans mon salon, une compétition de vente à domicile. Du lundi au vendredi, quatre femmes s'invitent l'une chez l'autre et tentent de convaincre un panel d'acheteuses peu enclines à se laisser séduire des bienfaits irrévocables des produits de la marque qu'elles défendent et que la chaîne bien sûr ne cite pas. Quand même chez M6, on a des principes. Alors vous avez remarqué qu'il n'y a ici que des substantifs féminins. On parle d'acheteuse, on parle de vendeuse, car visiblement la vente à domicile n'est pas vraiment une affaire d'hommes. Les hommes d'ailleurs, on ne les voit jamais. Ils sont sûrement quelque part occupés à faire quelque chose de très important, comme travailler pendant que leur épouse reste docilement cloîtrée entre le salon et la cuisine, à boire de la citronnade et à manger des petits gâteaux avec leurs copines. Elles travaillent, c'est vrai, elles vendent des trucs, mais on ne s'en rend pas compte, c'est le miracle de l'émission. Ces femmes qui travaillent sont aussi et surtout des femmes au foyer. En fait, plus que les remarques sexistes de la voix off, plus que les stéréotypes auxquels sont réduites les participantes de l'émission, plus que les produits qu'elles vendent, c'est surtout ce foyer qui pose problème. Ce foyer qui est partout dans l'émission, jusque dans son titre. Une boutique dans mon salon. N'est-ce pas, mesdames, un programme merveilleux? Une boutique dans son salon. Plus besoin de sortir, d'affronter les rues, les voitures, la foule, comme dans les reines du shopping. Une émission où les clichés sexistes étaient, jusque dans une très 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 certaine mesure, contrebalancés par la prise de contrôle par les femmes de l'espace urbain traditionnellement réservé aux hommes. Non, ici vous pouvez faire tout ce qu'on attend de vous, c'est-à-dire travailler un peu, mais surtout acheter des trucs et discuter avec vos copines sans quitter la sacro-sainte sphère domestique érigée en temple absolu de la féminité. Alors attention, hein, entendons-nous, le problème ce n'est pas les femmes au foyer, loin s'en faut. Non, le problème c'est que femmes au foyer, c'est toujours à la télé la seule alternative. Et les filles qui sortent alors, les filles qui lisent, les filles qui apprennent, les filles qui réfléchissent, les filles qui choisissent, les filles libres. Eh bien, à la télé, on ne les voit pas. Mais sur Radio Campus Paris, on en entend beaucoup.
Radio Camping Paris.
Et de filles, on va effectivement parler ce soir dans Radio Camping, sur le 93.9 ou sur internet radiocampusparis.org. En première partie d'émission, nous recevons Natacha Lapérouse, sociologue spécialiste des représentations genrées dans le sport. Elle écrit actuellement une thèse à Paris 3 sur les boxeuses et les footballeuses notamment. Avec elle, Anaïs, aussi connue sous le nom de Major, patineuse de roller derby, un sport féminin et féministe où la non-mixité est choisie et revendiquée. À 10 jours des JO, on fera le point sur le chemin parcouru par les femmes dans le champ du sport professionnel et amateur, et on évoquera les combats qu'il reste à mener. Ils sont nombreux et ils sont primordiaux. En deuxième partie, une interview 100% badass, en pleine de courses-poursuites en voiture fluo, de tripes qui giclent, de ninjas qui volent et de monstres gluants. On reçoit Sébastien Lecoq, critique cinéma et spécialiste du cinéma bis. Il nous a concocté un joli florilège de films confidentiels à découvrir ou redécouvrir sans modération pour changer des demoiselles de Rochefort et pimenter vos ciné-clubs de l'été. Et puis, comme chaque soir, ou presque, on retrouve deux nouveaux épisodes de Philosophie à Santa Barbara et L'Hôpital de la Bretèche, les fictions radiophoniques de Sarah et Maxime. Tout ça seulement pour vous et seulement dans Radio Camping.
Raymond Moore crée la polémique dimanche, juste avant les finales d'Indian Wells. Le patron du tournoi s'en est pris à la WTA. Les dirigeants du tennis féminin en prennent pour leur grade jusqu'au moment où Moore va trop loin et dérape avec des propos sexistes. Dans ma prochaine vie, quand je reviendrai, je veux être membre de la WTA, parce qu'ils ne font que profiter du succès des hommes. Ils ne prennent aucune décision et ils sont chanceux. Ils sont très chanceux. Si j'étais une joueuse, je me mettrais à genoux chaque soir pour remercier Dieu pour avoir donné naissance à Federer et Nadal, parce qu'ils ont véritablement porté ce sport.
Et on entendait à l'instant la douce voix de Raymond Moore, le patron de l'Indian Wells, visiblement peu enclin à accorder aux tenniswomen professionnelles le respect qu'elles méritent. Alors justement, pour parler de la position des femmes dans le sport, nous recevons Natacha Lapérouse, sociologue à Paris 3, spécialiste des représentations genrées dans le sport. Bonsoir Natacha.
Bonsoir.
Avec nous, Anaïs, aussi connue sous le doux nom de Major, qui fait du roller derby avec les Quedals, l'équipe B des Roller Paris Girls, c'est ça ?
Paris Roller Girls.
Paris Roller Girls, pardon. Bonsoir Anaïs.
Bonsoir.
Aussi avec moi en studio, Anna, pour les co-interviews. Bonsoir Anna.
Salut.
Alors, Natacha, un mot d'abord sur la naissance de votre sujet de recherche. Comment est-ce qu'on en vient à travailler sur les représentations de genre dans le sport ?
Alors, moi, j'ai toujours pratiqué du sport et quand j'étais enfant, en fait, on m'a forcément... En tout cas, j'ai dû m'orienter, on m'a orientée vers des sports dits féminins comme la GRS, la gymnastique, etc., la danse. Et arrivée à l'adolescence, en fait, j'ai très vite envie de faire autre chose et de choisir un peu un sport connoté plus masculin. Donc ça a été la boxe. Et quand j'ai commencé dans ce sport, ça a été très compliqué pour moi parce que... J'étais confrontée à la fois aux difficultés de faire accepter à ma famille le fait de pratiquer ce sport et aussi de me faire accepter dans ce milieu en tant que femme parce que c'est toujours compliqué aujourd'hui. Et mon entraîneur à cette époque-là, en fait, me parlait au masculin, c'est-à-dire que...
Ah, carrément.
Carrément. Pendant l'entraînement, il pouvait parfois me parler au masculin et quand on arrêtait l'entraînement, je redevenais une femme. Et vraiment, c'est ce qui a fait naître... mon sujet de recherche, cette idée qu'on a du mal à associer le fait qu'une femme puisse...
faire de la boxe.
Exactement.
Et vous, Anaïs, le roller derby, c'est venu comment ?
Moi, personnellement, je faisais un art martial avant ça, de l'escrime japonaise. Donc j'étais un petit peu dans le même genre de choses que Natacha, parce que j'étais dans un sport qui était très très masculin. On était peut-être 10 ou 20% de femmes, et puis pas forcément des hommes très ouverts d'esprit, ça dépend desquels évidemment, mais il y avait pas mal de misogynie dans le sport. Et puis je suis tombée sur le roller derby à moitié par hasard, et là ça a été la révélation. Il peut y avoir un sport où les femmes dominent, où les femmes sont un sport pour les femmes et par les femmes.
Et justement, je me demandais d'où il vient ce sport ?
Alors initialement, c'était plutôt un spectacle. Hein. C'était un espèce de show dans les années 50 c'était une équipe de gentils, une équipe de méchants qui s'affrontaient sur un ring. C'était un track, mais c'était le même genre.
Et c'était déjà des femmes ?
C'était déjà des femmes, mais c'était pas du tout les mêmes connotations parce qu'on allait le voir justement parce que c'était des belles bimbo qui
s'étaient dessus. Il y avait un enjeu, oui.
Voilà, un côté un peu combat de boue qui a été complètement. Alors ce sport a disparu totalement. Il a été récupéré par des féministes aux États-Unis dans les années 2000, fin des années 90, qui se sont dit « mais on va s'approprier ce truc-là, on va le débarrasser de ses connotations misogynes ».
Alors, le sport professionnel, c'est l'un des champs sociaux où les rapports de pouvoir s'exercent encore le plus en faveur des hommes. Concrètement, ces inégalités, elles s'envisagent comment ? Est-ce que c'est des inégalités salariales, un peu comme dans le monde de l'entreprise ? Ou est-ce que c'est plus des inégalités qui vont être liées à des enjeux de visibilité, qui vont être doublement problématiques, j'ai envie de dire, déjà parce qu'on voit moins les femmes qui font du sport à la télé, et aussi parce que cette visibilité, elle est stéréotypée ?
C'est un peu à tous les niveaux que ça joue. C'est-à-dire que le sport, que ce soit d'ailleurs professionnel ou amateur, il est dirigé encore aujourd'hui très, très, très majoritairement par des hommes. Donc les inégalités salariales sont encore énormes aujourd'hui. Dans la boxe, par exemple, pour un championnat du monde, entre hommes et femmes, ça peut varier de 200% à peu près.
De 200% ? Anna.
Oui, et je me demandais, ça commence quand ? Parce qu'on voit, enfin, on a tous vécu un peu l'exclusion dans les sports, à la cour de récré, quand les garçons jouent au foot et qu'ils ne veulent pas qu'on joue. À quel âge, en fait, ça naît, les stéréotypes ?
Oh, ça naît... Je ne pourrais pas donner d'âge, mais c'est depuis toujours. Enfin, dans la cour de récré, c'est...
Pourquoi est-ce que très jeune, il y a ces stéréotypes ?
Enfin, c'est dès l'enfance, en fait, on nous apprend qu'une femme, ça, c'est doux, c'est calme, c'est pas, voilà, ça reste à l'intérieur. Du coup, forcément, ça se retrouve tout de suite dans la cour de récréation. Elles ne vont pas aller jouer, se bagarrer, se bousculer avec les garçons. Et l'espace est réparti. Il y a une bipartition qui se fait très tôt, en fait.
Alors, pour revenir aux inégalités salariales, est-ce que ces inégalités salariales, elles expliquent en fait le manque de visibilité du sport des femmes à la télé ou est-ce que c'est plutôt dans l'autre sens finalement ?
C'est les deux. En fait, c'est les deux. C'est-à-dire que c'est une sorte de cercle vicieux. C'est-à-dire que si les femmes, on ne les voit pas à la télévision, forcément, ça n'attire pas les sponsors. Donc forcément, il y aura moins de moyens. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a que 3% des investissements en fait, des sponsors sont reversés aux femmes. En fait. Donc c'est vraiment ridicule. Donc forcément, si elles ont moins de sponsors, elles sont moins payées. Et forcément, la qualité du jeu, comme elles doivent mener une double vie. C'est-à-dire que souvent, elles ont une double vie, les sportives, elles doivent avoir une vie de salariale ou voilà, d'entrepreneuse. Et en même temps, pratiquer leur sport. Donc forcément, la qualité aussi...
Du jeu s'en ressent, voilà. Et donc la visibilité. Donc on parle beaucoup de femmes. J'imagine que ces discriminations, elles ne concernent pas que les femmes. On parle aussi, je pense, des athlètes homosexuels, LS et 2LES, ou aussi des athlètes transgenres. Comment est-ce que vous expliquez ça? J'ai lu que... dans un article de Robert Connell, que le sport représentait en fait un symbole très convaincant de la masculinité hégémonique. Pourquoi, concrètement, à votre avis ?
Il y a cette idée que dans le sport, en fait, en tout cas, on codifie une masculinité qui est virile et une féminité qui va rester finalement très stéréotypée, très dans le glamour, le joli et l'esthétique. Et que l'homme, justement, à travers le sport, va pouvoir... à la fois sculpter son corps de manière à le rendre fort et viril, et en même temps à exercer sa force, sa puissance, sa violence, etc. Et dès lors, en fait, que dans le sport, on franchit ces frontières-là, on franchit une norme qui va être sanctionnée, en fait, en général. Et du coup, l'homosexualité, c'est quelque chose qui reste encore aujourd'hui tabou dans le monde du sport. Et il y a aussi cette idée que dans le sport, c'est... On partage les vestiaires aussi, que du coup c'est compliqué, qu'il faut respecter la bipartition. Enfin, c'est assez complexe le monde sportif. Et par exemple, quand on. Dans tous les stéréotypes qu'on peut avoir et les injures, quand on peut traiter un homme de femmelette ou de tapette, etc., quand il n'arrive pas dans le sport à franchir, par exemple. Un combat, un match, etc. Donc ça reste très stéréotypé et pour les athlètes transgenres, c'est encore très très compliqué parce qu'il y a cette idée qu'au niveau de la testostérone, donc c'est l'hormone masculine, il y aurait un avantage en fait pour tous ceux qui ont un peu plus de testostérone. Oui. En fait.
C'est-à-dire que pour le corps des hommes, il y a un enjeu de contrôle, de performance, quand la femme est plus associée à un enjeu de sexualisation, c'est ça ?
Exactement.
D'accord. C'était My House de Métronomie.
Radio Camping Paris. Du lundi au jeudi, cet été, de 19h à 20h.
Et on continue de parler de représentation genrée dans le sport avec Natacha Lapeyroux, sociologue, et Anaïs Patineuse de Roller Derby. Ça n'existe pas. Avant la musique, on parlait des discriminations envers les athlètes homosexuels et transgenres. Et j'ai cru comprendre que dans le Roller Derby, vous aviez à ce sujet une politique particulière. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Ouais, en fait, c'est assez unique. La fédération internationale qui s'appelle la WFTDA, Women's Flat Track Derby Association, qui gouverne le sport féminin du roller derby, part sur l'autodétermination. Ça a été voté par les joueuses elles-mêmes, hein, il y a un an. Et donc, c'est la seule chose qui prévaut pour savoir si on est une femme ou un homme sur la piste. C'est est-ce qu'on considère qu'on est une femme ou un homme. Donc, il n'y a absolument aucune question de niveau d'hormones, de qu'est-ce qu'il y a sur ta carte d'identité, etc. C'est comment est-ce que tu t'autodétermines. Du coup, en France, on essaye de... Là, actuellement, c'est en discussion pour essayer de faire passer la même chose au niveau de la Fédération française et qui est le même genre de règlement pour nous.
D'accord. Donc, du coup, l'identité sexuelle ou l'identité genrée, du moins, c'est vraiment une question de performance au sens finalement cultural studies du terme, c'est-à-dire que c'est un spectacle, c'est une mise en scène.
En fait le principe c'est de vraiment se dire on se pose plus la question. C'est un peu compliqué de dire on est post quelque chose, hein. C'est un peu toujours
avec toutes les connotations qu'on le poste,
bien sûr. C'est ça, mais le principe c'est de dire quand on est sur un track, je me demande pas qui j'ai en face et je me demande pas qui sont mes coéquipières. C'est mes coéquipières et en face c'est mes adversaires et à la fin on va tous se faire un gros câlin. Donc peu importe, et on va jouer tel qu'on a envie de jouer et point barre. Et donc ces questions sont évacuées sur la partie réglementation, etc. Et qui n'a plus place au moment où on est en train de jouer sur un track.
D'accord.
Donc c'est inclusif.
Oui, c'est inclusif au lieu d'être exclusif. Et des fois, effectivement, ça fait du bien. Le roller derby, c'est un sport où les femmes peuvent s'assumer en tant que femmes, qu'elles soient biologiquement des hommes ou non. Mais j'ai l'impression que pour des sports qui sont plus connotés comme masculins, comme le foot, le rugby, encore la boxe, on en parlait tout à l'heure, elles doivent plutôt, les femmes, apprendre à devenir des hommes sur le terrain ou sur le ring. Je me trompe, Natacha ?
Apprendre à devenir des hommes, je sais pas, parce que justement, elles doivent au contraire tout le temps montrer des signes de féminité, justement, montrer que c'est des femmes. Faut qu'elles soient performantes sur le terrain, effectivement, essayer de jouer comme des hommes, mais surtout, si il faut que techniquement elles deviennent comme des hommes ou physiquement dans leur performance sportive, dans leur apparence physique, on va leur demander en tout cas d'être des femmes, de surjouer la féminité. Et de montrer, peu importe la pratique, que ce sont des femmes. Parce que sinon, justement, on va aller soit les suspecter d'être des hommes.
C'est vraiment... C'est une faute, quelque part, d'être suspecté d'être un homme.
Oui, c'est une faute parce qu'on estime que les hommes sont plus forts que les femmes. Donc si, il y a eu des tests de féminité qui ont été mis en place... etc. Quand un homme est très très performant, on va le suspecter d'être dopé. Quand une femme est très très performante et très masculine, elle peut être suspectée d'être un homme.
Anna ?
Oui, quand on pense au sport, à des femmes sportives, on a les seuls noms qui me sont venus à l'esprit quand j'ai pensé au sujet, c'est des femmes qui en font des sports individuels. Pourquoi ?
On a moins de, c'est vrai, au niveau des... À part Céline Dumerc, peut-être la basketteuse, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais pas tant que ça, à mon avis, à part quand on s'intéresse au sport féminin. On a très peu de stars du sport féminin, et encore moins dans les sports d'équipe, parce qu'elles n'arrivent déjà pas à exister en tant qu'équipe. On ne connaît pas les... Enfin, très peu de gens connaissent vraiment, elles sont très peu médiatisées, donc on ne connaît pas les bonnes équipes... de foot par exemple ou de volley, etc. Et du coup c'est vrai que elles n'arrivent déjà pas à exister en tant qu'équipe, donc exister en tant que personne et star du sport, c'est encore compliqué. Donc je pense que dans les sports individuels ça fonctionne mieux, on arrive mieux à starifier les sportives, et c'est vrai que
parce qu'il y a plus de visibilité aussi
Il y a plus de visibilité dans les sports individuels, le tennis reste un sport assez bien médiatisé, le ski aussi.
C'est un peu là que s'insère le roller derby, parce qu'aux États-Unis, ça commence à être pris en main par les médias un peu mainstream, notamment ESPN, qui est la grosse chaîne de sport américaine. Et alors je ne me souviens plus du nom du journal, mais il y a un magazine très très connu aux États-Unis de sport qui, il y a un an, a titré pour une des stars du derby qui s'appelle Bonnie Thunder. Ils ont titré la LeBron James féminine. Donc forcément, il faut revenir à un standard masculin pour expliquer ce que c'est. Mais elle a eu droit à son magnifique article première page avec sa carte d'identité, ses performances sportives. On ne s'attelait pas du tout à la question que ce soit une femme, à part ce titre qui était un peu décalé. Et le fait que le roller derby, si on cherche, c'est le seul sport collectif féminin d'abord. C'est-à-dire que si on prend tout autre sport collectif qui est d'abord féminin, c'est des critères esthétiques. Si on prend la natation synchronisée, n'importe quoi d'autre, c'est toujours des critères esthétiques. C'est le seul sport qui ne se base pas sur des critères esthétiques, puisque c'est une question de score comme dans d'autres sports, qui est d'abord féminin.
Alors, est-ce que les choses, au niveau des représentations, elles se compliquent dès que ce qu'on appelle l'intersectionnalité des paradigmes, c'est-à-dire au moment où on parle d'une athlète qui serait non blanche, est-ce que les choses, elles se compliquent à ce moment-là, à la fois pour les représentations, pour les photographes, pour les légendeurs dans les magazines, pour les commentateurs? Je pense par exemple au cas le plus connu, à mon avis, c'est Serena Williams.
Bah là, ça se complique vraiment. Enfin, Serena Williams, qui est une athlète dont on ne peut nier les performances sportives, pour le coup, qui sont assez visibles et répétées. Enfin, elle est quand même en train de battre des records de Grand Chelem, etc., de victoire des Grand Chelem. Elle est toujours... en tout cas, on remet tout le temps en question sa féminité. Et il y a ce problème, en fait, dès qu'on parle d'athlète non blanche, il y a cette idée qu'il y a une hyper virilité... chez ces femmes, en fait, elles sont toujours aussi ramenées au fait qu'elles sont un peu plus viriles encore que les
Donc, finalement, il faut toujours évacuer le paradigme de genre au profit d'une masculinisation du corps.
Il y a toujours cette idée que, à part dans les sports, et encore, dès qu'il y a trop de biceps, en fait, ça joue vraiment certains muscles. Et Serena Williams, par exemple, a beaucoup de des biceps assez développés. Dès qu'il y a cette idée de force au niveau du biceps, etc., pour les femmes, ça devient très compliqué.
Et encore plus quand on est une femme noire. Anna ?
Ouais, et pourquoi il n'y a pas de mixité dans le sport ? Enfin, pourquoi une équipe de femmes et d'hommes mélangés, ça n'existe pas ?
Et qu'au badminton, qu'on retrouve des équipes mixtes. Mais sinon, il y a vraiment une bipartition qui est faite. En fait, le sport, quand il est né, quand il s'est fondé, il y avait vraiment l'idée que c'était pour les hommes, que c'était organisé par les hommes, pour les hommes. Quand Pierre de Coubertin, il a créé les Jeux Olympiques modernes en 1896, il disait que c'était impraticable et inesthétique, en gros, pour les femmes. Il y a cette idée, en fait, que ça menaçait les capacités reproductrices des femmes, etc. Donc, elles ont été très, très tôt exclues, en fait, du sport. Et il y a cette idée que les hommes, de toute façon, physiquement, sont supérieurs aux femmes. Donc, et ça définit aussi leur identité. C'est-à-dire que ça définit leur identité d'homme viril qui pratique du sport. À partir du moment où ça devient mixte, les identités, elles seront un peu plus troubles aussi. Et on remet en question certaines normes.
Alors, les discriminations, elles ne concernent pas seulement le champ des professionnels ou le champ des commentateurs. On voit en ce moment à la télé toute une série de pubs pour des serviettes hygiéniques, notamment, qui mettent en scène des femmes qui sont sportives, des athlètes qui se revendiquent comme telles. À votre avis, à toutes les deux, est-ce que ce genre de représentation peut être vraiment opérant pour faire bouger les choses ?
C'est l'image et à quel point cette image est vue quotidiennement, c'est essentiel. On a besoin s'imaginer dans ces rôles-là, on a besoin de se dire que c'est possible, et c'est pour ça que personnellement je trouve que la médiatisation des sports entre guillemets féminins, même si j'aime pas trop en parler comme ça, c'est essentiel. Une femme qui se voit pas comme capable de faire X choses, que ce soit sportive ou autre chose, il y a un barrage de plus à passer avant de se retrouver dans la pratique.
Donc on peut dire finalement que c'est bien ces pubs.
Oui, si on reste dans des critères, toutes les pubs sont pas, voilà, celle-ci était pas dégueulasse, voilà, mais il y en a certaines qui sont
pas mal. Donc pour une fois, merci Always et merci Nana. En tout cas, merci à vous deux, hein, Natacha, Anaïs, d'avoir été avec nous. Vive les filles et puis vive le sport. Won't you tell me something about something about the rain. Since I was young enough to know, better we walk the path we go. C'était Something About the Rain de John Cunningham. Et tout de suite, un nouvel épisode de La philosophie à Santa Barbara. Santa Barbara, qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. Tout le monde se souvient de la théorie du je ne sais quoi ou du presque rien de Vladimir Jankélévitch. D'un côté, il y a je ne sais quoi et de l'autre, le presque rien. Et finalement, la théorie du je ne sais quoi et du presque rien, ou métaphysique du temps suspendu, dans le devenir du fait. Pour vous, notre équipe de spécialistes a reconstitué les faits pour comprendre comment le philosophe a pu regrouper ce foisonnement d'idées devenues aujourd'hui théorie. Une théorie qui nous enquiquine. Écoutez plutôt ce qu'il s'est réellement passé.
Attends.
Quoi ?
Non, rien. 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 Attends.
Quoi ?
Non, rien.
Excusez-moi, messieurs, dames, je vais vous demander de reculer.
Attendez!
Quoi?
Non, rien.
Attends! Non, rien.
Vous vous moquez de moi?
Quoi?
Pas du tout.
Messieurs, je vais vous demander de dégager. Les coureurs ne vont pas tarder à passer par cette route. Je vais vous demander de reculer.
Comme c'est surprenant.
On va faire un petit contrôle de routine, monsieur Jankilevitch, pour voir si tout tourne bien comme il faut là-haut.
La vérité crue, la vérité nue, vous savez tout maintenant. À bientôt avec notre équipe d'enquêteurs épris de vérité pour un nouvel épisode des aventures de la philosophie à Santa Barbara. Cherry Bomb chantait à l'instant les vertus de Howard the Duck, film culte des années 80 dont on va à présent parler, ainsi que de la grande casse, Bloodsport, la planète des vampires, Clash of the Ninjas pour ne citer que. Nous recevons Seb Lecoq, critique cinéma, spécialiste du cinéma bis, qui veut dynamiter vos ciné-clubs de l'été avec des trouvailles extraordinaires. Bonsoir Seb.
Salut.
Alors, vous nous avez concocté un petit florilège de films vraiment chambés qu'on va évoquer hein, les uns après les autres. En commençant donc par Howard the Duck, un film de William Hughes sorti en 86 et sous-titré Une nouvelle race de héros.
Ouais, c'est ça, oui.
Alors, qu'est-ce que ça raconte de quoi ça s'agit?
En fait, Howard, c'est l'histoire d'un canard qui vit dans l'espace, qui arrive sur Terre un peu par accident. Et là, il va comprendre que la vie sur Terre, c'est pas vraiment la même que la vie dans l'espace. Mais bon, pour moi, c'est un canard de taille adulte. Donc qui boit, qui fume, qui aime les femmes, tout ça. Donc c'est
un peu en mode Ted pour nos auditeurs jeunes.
Voilà, ce serait un peu le grand-père de Ted, mais en mieux.
En mieux, carrément. Alors le réalisateur, William Wick, il est peu connu du grand public comme réalisateur. Ça reste malgré tout, j'ai l'impression, une figure un peu clé de la période, puisqu'il a scénarisé American Graffiti de Coppola et Indiana Jones et le Temple Maudit. Est-ce que sa carrière de scénariste ou de réalisateur, elle va vraiment quelque part, à part avec Howard the Duck?
C'est quelqu'un qui a beaucoup fait partie de la galaxie George Lucas à cette époque-là. Qu'il n'a pas fait grand-chose avant, ni pas fait grand-chose après. En fait, avant, il a réalisé un petit film d'horreur en 73 qui s'appelle le Messiah of Evil. Et ensuite, il a fait une petite comédie en 84 qui s'appelle Une défense canon, avec notamment Eddie Murphy. Donc voilà, c'est quelqu'un qui était un petit artisan de la comédie, quoi. Et après, il a vraiment fait Howard the Duck, et c'est là ça reste son chef-d'œuvre.
Le film est devenu culte. Pourquoi voilà. Le film est devenu culte, à votre avis?
Parce que le film, ça fait détruire quand elle est sortie, mais vraiment, mais un truc incroyable. Donc du coup, pendant très longtemps, ça a été un navet irregardable, immonde, alors qu'en fait, pas du tout.
Du point de vue de la critique ou du point de vue du public?
Du point de vue de la critique, qui a vraiment détruit le film avec des Razzie Awards en pagaille. Alors que quand on voit le film, en fait, c'est un super divertissement qui est vraiment super bien rythmé, c'est meilleur que 90% des Marvel qui sortent aujourd'hui, quoi.
D'accord, mais d'ailleurs le personnage il fait partie de la galaxie Marvel, non?
Oui, tout à fait, à la base c'est un comics de Marvel qui a été produit par George Lucas, adapté au cinéma. Donc voilà, c'est un rôle Marvel, pas comme les autres, mais un rôle Marvel.
Il va y avoir un remake de Howard the Duck?
C'est pas prévu, mais par contre il a une apparition surprise dans la scène post-générique des Gardiens de la Galaxie.
Ah d'accord, je suis pas resté jusqu'à la fin du générique, les Gardiens de la Galaxie ça a été un peu trop pour moi.
Et bien là on voit Howard.
Alors, c'est marrant parce que le film, il est sorti donc en 86, plein milieu des années 80, et en voyant des images, j'ai eu l'impression que c'était aussi un concentré de référence de la période. Dans les extraits que j'ai vus, on a clairement une référence à E.T. On retrouve aussi Léa Thompson qui jouait la mère dans Retour vers le futur. Ouais. Comment un film qui sort en plein milieu des années 80 peut aussi être un condensé de tout ce qu'on fait les années 80?
Je crois que c'est un film qui avait compris ce qui était cool au moment où il se faisait, en fait. Et donc, ce qui était cool à l'époque est redevenu cool aujourd'hui. Et ça fait beaucoup pour le film qui a été redécouvert il y a quelques années. Il y a une super édition Blu-ray qui est sortie en France, d'ailleurs, qui a pu permettre au film d'être redécouvert et d'être rejugé à sa juste valeur, qui est excellente, d'ailleurs. C'est vraiment un pur divertissement que je conseille à tout le monde.
D'accord, un super film pour l'été, donc.
Incroyable, parfait.
D'accord. Changement de registre donc avec Bloodsport maintenant de Newt Arnold qui est sorti en 88. Un film d'arts martiaux et non pas de sabre comme j'avais écrit au début où vont se croiser Jean-Claude Van Damme et Forest Whitaker. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce film ?
Alors Bloodsport c'est mon film préféré de tous les temps.
Pas la grande casse ?
Non, c'est Bloodsport.
Vous changez un peu de film préféré tous les jours.
La grande casse c'est le film le plus cool de tous les temps.
Ah d'accord.
Bloodsport c'est différent. C'est mon préféré. C'est pas le meilleur non plus, c'est mon préféré. Et donc c'est le premier vrai film de Van Damme. Qui a été produit par Golden Globus, les chantres de la Canon, hein, donc une boîte de prod de bis bien connue de tous les amateurs. Et donc c'est un film qui est entouré de plein de mystères et de légendes un peu, qui est l'adaptation de la vie de Frank Dux, donc qui est un combattant d'arts martiaux aussi fort que Mythoman. Donc sa vie est un peu compliquée à savoir ce qui est vrai.
C'est une histoire vraie ?
C'est une histoire, ouais, c'est la vie de Frank Dux. Donc Frank Dux existe vraiment, qui a fondé le Dux Ryu, donc c'est un dojo d'arts martiaux. Mais comme le gars est vraiment mytho, on ne sait pas ce qui est faux et ce qui est vrai. Donc le film est un peu nébuleux à ce niveau-là. Mais bon, le scénario n'est pas la première qualité
du film. C'est pas la première qualité du film. Et j'ai lu que Jean-Claude Van Damme avait convaincu le réalisateur avec son fameux coup de pied.
En fait, ouais, c'est ça. Donc la légende voudrait qu'il soit allé, ils se soient invités à une fête donnée par Golan et Globus, justement, qu'il soit pointé devant les deux producteurs, donc pas les producteurs. Et il leur a mis un coup de pied sauté à ça du visage, donc c'est une question de mettre du visage, et les gars ont fait « Ok, ben on va faire un film ».
Alors, outre sa coolitude assumée et Jean-Claude Van Damme, en faisant un peu des recherches sur le film, je me suis rendu compte que l'histoire de son exploitation, elle était assez intéressante. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? C'est un film qui a été, encore une fois, détruit par la critique, réhabilité par les ciné-clubs.
Alors en fait, ouais, bon, la critique générale n'aime pas trop le film, encore maintenant. C'est surtout un film de fans. Et le film n'avait pas du tout marché. À la base, c'était un film qui devait sortir en vidéo. Et donc, le film a trouvé un succès en vidéo. Et donc, dans certains pays, les fans ont tellement aimé le film qu'ils ont demandé une sortie salle, ce qui a été le cas en France, où le film est un gros succès en salle en France et en Malaisie, je pense. Et donc, c'est un peu l'effet inverse. Grâce à la vidéo, le film est sorti en salle après.
Mmh. Alors, autre film d'action culte, en dépit de sa piètre qualité, j'ai envie de dire, c'est The Exterminator, Permis de tuer, de James Glickenhaus, c'est ça ?
Glickenhaus,
ouais. Sorti en 1980, qu'est-ce que ça raconte ?
On appelle ça un vigilante movie, donc c'est un film d'autodéfense, c'est l'archétype du film d'autodéfense bête et méchant, mais c'est super efficace.
J'ai lu que c'était surtout très bête et très méchant.
C'est surtout, je vais pas spoiler, mais il y a des scènes avec une violence assumée et un côté, bah, on va se faire nous-mêmes notre propre justice qui est assumée jusqu'au bout.
Oui, d'ailleurs, le film a eu beaucoup de problèmes avec la censure à cause de ça, non ?
Oui, encore aujourd'hui, hein, souvent c'est un film qui est traité de film fasciste, machin, comme beaucoup de films d'autodéfense d'ailleurs. Mm. Alors que bon, quand on regarde le film, c'est vraiment de l'exploitation pure et dure, quoi. C'est vraiment du cinéma bis, mais c'est super efficace, c'est super rythmé, c'est vraiment tout à voir, quoi.
Alors le film reprend pour partie, en même temps comme un peu tous les films du genre, le synopsis de Un justicier dans la ville qui est sorti en 74 avec Charles Bronson, mais il me semble aussi qu'il évoque assez clairement le Taxi Driver de Scorsese. Est-ce que ces trois films, ils entretiennent des correspondances qui seraient autres que narratives ?
En fait, le Taxi Driver, c'est surtout parce que c'est un film, donc Exterminator, qui parle du retour des soldats du Vietnam, où là pareil, c'est des gens qui, une fois de retour, ne sont pas considérés du tout. Donc la finition avec Taxi Driver, elle est juste dans le personnage, en fait, qui va partir dans une vendetta personnelle parce que son ami s'est assassiné, la différence de l'autre. Et donc les deux films matriciels du genre, donc c'est Un justice dans la ville, donc Death Wish, avec Charles Bronson, et Vigilante avec Robert Forster, réalisé par William Lustig. Donc c'est les deux films. Et donc Exterminator, c'est une espèce de version bis de ces films-là, on va encore plus loin.
Voilà. Alors, changement de registre total, parlons maintenant de La planète des vampires, du grand, très très grand Mario Bava, un film de science-fiction qui, comme il est réalisé par Mario Bava, ne ressemble pas vraiment aux autres.
Voilà, en fait, là, le film est ressorti très récemment en version 4K, donc remasterisé, grâce à Nicolas Winding Refn.
On peut encore le voir au ciné ?
Il passe dans quelques salles de Paris encore, ouais, donc moi je l'ai revu à cette occasion.
Et grâce à Winding Refn ?
En fait, oui, c'est lui qui a en partie chapeauté.
Le réalisateur de Drive.
Voilà, qui a un peu chapeauté cette ressortie en collaboration avec Lamberto Bava, le fils de Mario Bava. Et en fait, c'est comme il disait dans l'intro, il fait une petite intro au film, c'est un film de science-fiction pop art en fait. Donc au niveau des costumes, de la photo, de la lumière, c'est complètement pop, c'est anti-réaliste au possible.
Et on n'a pas de mal à comprendre du coup pourquoi ça a intéressé Winding Refn.
Exactement, il y a des filtres bleu-rouge, Winding Refn qui est gros fan de Bava d'ailleurs, parce que Bava, à la base, c'est un chef-op qui aime bien les couleurs pétantes, genre le bleu, le rouge, qui en met partout. Et esthétiquement, la planète des vampires, c'est vraiment un gros condensé de ce que faisait la SF pop italienne dans les années 60.
Alors Bava, il est surtout connu pour son influence sur le giallo, hein, ces films policiers italiens hyper stylisés, graphiques, des années 70-80 à peu près. La planète des vampires a l'air d'être assez différent, au moins dans son intrigue. Du coup, quel rapport le film pourrait entretenir avec le genre ?
En fait, Bava, c'est surtout un réal qui a été connu pour ses films d'horreur, donc qui a plus ou moins inventé le giallo. Mmh. Et donc là, La planète des vampires, donc, alors que c'est un film de science-fiction, La planète des vampires, il n'y a pas de vampire dans le film d'ailleurs, hein, c'est une petite parenthèse. Et donc c'est un film de science-fiction qui est très pop, très coloré, donc c'est vraiment à part dans sa film.
Dans la carrière de Bava ?
Ouais, c'est ça, on retrouve sa touche, c'est vraiment dans la photographie, quoi. C'est là où on voit que c'est lui qui est derrière la caméra.
Et j'ai vu aussi que c'était un film qui avait eu un impact important, puisqu'il a en partie inspiré à Ridley Scott Alien.
Ah ben, plus qu'en partie même. Moi, ça fait longtemps que je dis que Alien est un remake déguisé de La planète des vampires, parce qu'au niveau du scénario, c'est la même chose.
Exactement la même chose.
C'est un vaisseau de secours qui a atterri sur une planète pour porter secours donc à un vaisseau disparu. Et arrivé sur la planète, il se rend compte que les personnes de l'équipage sont possédées, deviennent folles grâce à une entité extraterrestre.
Mais le film doit aussi esthétiquement, Alien doit aussi esthétiquement à La planète des vampires,
parce
qu'en revoyant le documentaire qui a été fait sur le Dune de Jodorowsky, ouais, il parle beaucoup des influences graphiques qu'il a initiées lui en pensant Dune pour Alien. Du coup, la planète des vampires, comment il se situe là-dedans ?
Ah, c'est à l'exact opposé.
Ah, d'accord.
Donc, esthétiquement, il n'y a vraiment aucun rapport. Esthétiquement, Alien, c'est Giger, et Bava Giger, sur une échelle de 1 à 10, c'est 0 et 11. Quoi.
C'est 0.
Il n'y a rien à voir.
D'accord, ok.
Thank you.
Et vous écoutiez Nana de Paolo and Pan.
Vous écoutez Radio Camping Paris sur le 93.9.
Nous sommes toujours en train de parler de cinéma avec Seb Lecoq, critique ciné et spécialiste du cinéma bis. On parlait avant la pause d'un film de Mario Bava qui s'appelle La planète des vampires. Parlons maintenant d'un film du fils de Mario Bava, Lamberto Bava, donc, qui a réalisé en 85 Démon.
Ouais, voilà, Démon 1, donc Lamberto qui est le fils de Mario, et Mario qui était lui-même le fils d'un grand metteur en scène du muet italien, donc c'est une sorte de famille chez les Bava. Et donc, ouais, Démon, c'est pareil, c'est un film d'horreur, mais assez fun. Ce qui est typique des années 80, avec une bande de... Ça se passe dans un immeuble où les gens deviennent possédés par des démons et commencent à s'entretuer les uns les autres. Donc c'est assez basique, mais c'est assez...
Il y a une bonne ambiance dans cet immeuble,
disons. Ah, c'est assez sympa, ouais.
Alors le film a eu une suite en 86. Comment ça se passe, la suite de l'histoire de cet immeuble qui est possédé par des démons?
Là où c'est intéressant, c'est que le premier se passait dans un immeuble et le deux se passe dans un cinéma. Donc les gens vont voir un film, ils sont opposés par le film, ils commencent à s'entretuer dans la salle de
cinéma. Ça rappelle un peu Scream, ça, dis donc.
On peut voir un peu ça, ça rappelle surtout la scène de où les Gremlins foutent le bordel dans le cinéma. Dans
les Gremlins. Moi, je ne parle pas des Gremlins, j'ai très très peur des Gremlins.
Ben voilà, c'est un peu dans la même idée, quoi.
D'accord, ok. Alors, encore un film italien, sorti cette fois en 76, objet culte de certains cinéphiles, La Toubib du régiment de Nando Cicero, un film dont j'ai très très peur de parler.
Ouais, c'est un peu, ça fait partie des plaisirs coupables, très très coupables. Donc, je dis ce film parce qu'il représente bien tout le genre des comédies polissonnes italiennes, qu'on appelle ça. Donc, c'est des comédies qui sont polissonnes, donc souvent avec des actrices souvent très très
polissonnes aussi.
Très vêtues, qui sont l'actrice la plus connue du genre, c'est Edwige Fenech. Et il y a souvent des acteurs qui sont petits et replets, dont Alvaro Vitali, qui est la figure du genre. Et donc, pour résumer un peu, c'est un peu comme les Charlots, mais en pire, en plus bas du front.
Alors, pire sur une échelle de 1 à 10, pire comment?
En fait, il faut imaginer un film des Charlots, mais scénarisé par Bigard et Patrick Sébastien, en fait. C'est à base de gags, de paix et de baf.
Ah oui, bon, ça a l'air vraiment terrible.
Tout ce genre de film, c'est un mix entre les Charlots et les films de Tarantino, en fait.
D'accord. Alors, pour replacer un peu le film dans son contexte, j'ai lu que que le film était le représentant d'un genre de comédie donc érotique italienne qui était très très populaire dans le pays à une époque où le porno hardcore était finalement interdit. Donc c'était une sorte de palliatif.
C'est ça. En fait, tous ces films ne parlent que de sexe, hein, de façon un peu paillarde comme ça. Donc il y a aucune vraie scène de sexe. Il y a des scènes dénudées, bien sûr. Toujours les filles sont toujours dénudées. Mais c'est vraiment les deux grandes lignes de force, c'est le comique stupide, mais plus c'est stupide, plus ça marche.
Plus stupide que la stupidité, comment dire.
Mais la stupidité, c'est intelligent quoi, à côté de ça.
Ça donne envie, voilà.
Moi j'aime bien, mais bon.
Voilà. Mais vous avez le droit, parfaitement. Place maintenant à un genre américain qui a fait les choux gras du cinéma d'exploitation italien, donc le western spaghetti, hein, qui a gagné ses lettres de noblesse avec Sergio Leone, notamment, pour citer le plus connu. On parle donc de Get Mean, en français Pendez-le par les pieds, de Fernandino Baldi, sorti en 1975.
C'est ça, donc ça c'est un western italien qui est un peu à part, parce que 75 ça commence à être un peu la fin de la vague des westerns. Et c'est un western qui est à la limite de la comédie, du fantastique, parce que c'est un scénario qu'on peut difficilement résumer. En fait, on y trouve, un peu de tout. On y trouve des esprits, des mauvais esprits, on y trouve des zombies, des fantômes, une village hantée. Et si je me souviens bien, c'est l'héritière du trône d'Angleterre. Donc, je sais pas pourquoi, mais elle est là. Et en fait, au milieu, il y a le héros qui tente vaguement d'accomplir sa mission au milieu de tout ça. Donc c'est un western qui est super super fun, c'est super rythmé, il y a des péripéties pour tous les sens, c'est bien réalisé en plus pour le western italien. Et donc les réals italiens sont souvent assez propres quand il s'agit de faire des westerns. Et celui-là c'est un qui est vraiment pas connu du tout, mais pour moi c'est un des meilleurs parce qu'il est à la fois western, à la fois fantastique, à la fois comédie. Donc ça mixe un peu toutes les grandes lignes du western italien quoi, dans un seul film.
Et en même temps, avec ce personnage qui a l'air, enfin, en tout cas de ce que j'ai lu du film, qui a l'air vraiment immortel, le film tient en fait une assez belle métaphore hein, du genre. Ce genre qu'on a, qui passe son temps à renaître
voilà,
finalement de ses cendres.
Qui a été enterré mille fois, qui est rené mille et une fois. Donc ouais, c'est une métaphore de ça, puis ça anticipe aussi les héros, les grands héros, par exemple du film d'action congolais, genre Shaun of Fat dans The Killer, qui ne meurt jamais, ou John McClane, par exemple, qui dans Piège de Cristal, physiquement, devrait être mort 12 fois, mais ne meurt jamais. Donc là, c'est un peu pareil, c'est le héros, il lui arrive plein de choses, il devrait mourir 120 fois, mais il ne meurt jamais. Et donc c'est tout de façon un peu parodique, parce que le film, il y a beaucoup d'humour dans le film, mais ouais, ça anticipe un peu cette vague de héros qui ne meurt pas, quoi. Donc voilà, Shaun of Fat et Bruce Willis.
Alors, retour maintenant en Amérique du Nord avec Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin, un film peu connu d'un réalisateur très connu, puisqu'il s'agit d'un film de John Carpenter qui est sorti en 1986.
Voilà, ouais, c'est un film de Carpenter qui ne ressemble pas aux films de Carpenter, vu que c'est une grosse comédie d'action, avec Kurt Russell qui joue un héros, mais qui perd son temps à se faire tabasser et à ne pas faire ce que font les héros d'habitude. Et donc ça se passe dans le Chinatown américain, donc c'est très, très inspiré par les films de la Shaw Brothers, par les Wu Chapian et les films d'action chinois en fait. Et donc le film n'a pas du tout marché au box-office malheureusement.
Alors le film il fait suite en même temps à vraiment plusieurs chefs-d'œuvre hein, du réalisateur, parce que ça vient après Halloween, ça vient après The Thing, ça vient après New York 1997. Est-ce que cette suite de chefs-d'œuvre expliquerait pas un peu que le film n'ait pas autant marché? Est-ce qu'il n'est pas aussi rendu complètement invisible par la sortie l'année d'après du cultissime Le Prince des Ténèbres?
Ouais, du Prince des Ténèbres, de Invasion Céleste aussi dans la foulée. Et en fait, je pense que le film n'a pas marché parce que c'est un film de studio, ce qui est très rare pour Carpenter. Donc le film a coûté 25 dollars pour une recette de 11 millions. Et donc c'est un peu cet échec qui a forcé Carpenter à abandonner les studios et à partir faire des films pour lui-même en indépendant. Quoi.
Et donc c'est un film qui est au tournant de la carrière du réalisateur finalement.
C'est ça, ouais. C'est un film qui n'a pas du tout marché mais qui a été bien réhabilité par le VHS et le DVD plus tard.
Alors on continue dans le registre de l'inventivité complètement what the fuck avec les aventures de Bonkaru Bonzai dans la 8e dimension. Déjà le titre est un programme de W.D. Richter, je n'ai pas trouvé le prénom de ce réalisateur. Un film qui est sorti en 84 et qui m'a l'air pour le coup vraiment vraiment inclassable.
Voilà, et en fait ce qui est marrant c'est que le film est irrésumable donc, et le réalisateur est le scénariste de Jack Burton, dont on parlait juste avant. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve des simultes entre les deux, donc un héros qui n'est pas un héros et un film qui est totalement irrésumable, mais qui se passe un peu dans une espèce de space opéra comme ça, un peu complètement fou. Mais c'est pareil, c'est un super divertissement typiquement des années 80 qui n'a pas eu le succès qu'il méritait non plus. Alors c'est vraiment un excellent film d'aventure, c'est vraiment un truc à voir entre potes pareil, avec un gros casting en plus.
Et donc, oui, parce qu'on retrouve Christopher Lloyd et tout ça dans ce film.
Lloyd, Jeff Goldblum, John Lithgow et Ellen Barkin, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, c'est un beau casting
c'est
pour
pas mal,
un
ouais.
Beau film de l'été.
C'est pas mal.
Alors, on avait encore plein de films dont on voulait vous parler, mais on va être obligé d'abréger. Du coup, on va finir par le meilleur des meilleurs, le film le plus cool qu'on évoquait tout à l'heure. La grande casse, finalement, Gone in 60 Seconds, en anglais, de H.B. Ellicky, sorti sur les écrans américains en 1974. Et je sais que vous adorez ce film.
La grande casse, c'est vraiment un de mes films coup de foudre que j'adore, que je mets dans toutes les listes, comme Bloodsport. C'est les films que je cite, que je parle à tout le monde, que je cite tout le temps, que je regarde des centaines de fois. En fait, j'ai découvert dans un festival de cinéma, donc l'étrange festival, pour pas le citer, je l'ai pas un peu par hasard en plus, et depuis, je suis tombé amoureux de ce film. Donc pour moi, c'est le film le plus cool de tous les temps.
Alors pourquoi c'est le film le plus cool de tous les temps?
Parce que c'est un film des 70s déjà, donc il y a l'époque la plus cool, réalisé par des cascadeurs, avec des cascadeurs, qui est le métier le plus cool du monde.
Oui, d'ailleurs, la particularité du film, c'est vraiment ça, c'est d'être un film qui est réalisé, écrit par un cascadeur, ouais. Et qui est conçu pour ces cascades. Finalement, la seule grammaire visuelle du film, c'est la cascade.
C'est ça, c'est un film fétichiste de voiture. D'ailleurs, le premier nom qui apparaît au générique, c'est Eleanor, qui est le nom de la voiture du film, en fait. Donc voilà, les films de voiture sont avant les comédiens au générique.
Et ça, c'est quand même pas classique. Alors, impossible aussi de ne pas mentionner hein, l'influence du film sur le boulevard de la mort, Death Proof de Tarantino, que vous n'aimez pas beaucoup, mais que moi, j'aime beaucoup. Un mot quand même sur cette influence?
Ouais, c'est le fétichisme de la voiture, justement. Et donc, pour rester sur Tarantino, donc, qui a pillé de nombreux films, dont celui-là. Et
dans... Qui s'est inspiré de nombreux films.
Donc, dans Union d'enfer, donc un plan où on voit le chef Magro qui arrive sur la scène de crime, il y a pile poil le même plan que dans La Grande Casse. C'est un plan de pare-brise avec 10 paires de lunettes dessus.
Et qui est dans Kill Bill aussi. Hein,
voilà, donc c'est le plan qu'il a volé à H.B. Ellicky.
Il y a aussi cette reprise structurelle, puisque la moitié du film est faite par la cascade dans La Grande Casse, et c'est aussi le cas dans,
c'est ça, donc
dans Death Proof.
La Grande Casse, c'est pas un film en trois actes, mais en deux actes. Il y a l'introduction qui dure 45 minutes et la course poursuite qui dure 45 minutes. Et voilà.
Et d'accord.
Le film, c'est,
il y a deux et en plus, il y a Nicolas Cage dans le remake des années 2000.
Voilà, le remake est très mauvais, mais comme Nicolas, il faut le voir.
Tout ça parce qu'il y a Nicolas Cage. Merci beaucoup, Seb Lecoq, d'avoir été avec nous. On mettra en ligne toutes les références des films dont on a parlé, d'autres éventuellement, puisqu'on n'a pas tout cité, avec le podcast de l'émission sur radiocampusparis.org. Je précise aussi que tous les films dont on a parlé sont disponibles en DVD, en Blu-ray, dans notre zone, c'est ça ?
C'est ça, oui. Tous.
Et donc, du coup, vous pourrez les voir facilement. Ouais. Radio Camping n'a pas encore fini de vous raconter des histoires, puisqu'on vous retrouve tout de suite avec l'avant-dernier épisode de l'hôpital de la Bretèche. Bonjour, c'est pourquoi ?
J'ai mal.
Ah non mais sans blague, asseyez-vous là, j'appelle le médecin. Suivant, monsieur c'est pourquoi ?
Pour rien, merci.
Vous me prenez en photo avec votre téléphone ?
Non, je cherche des Pokémon.
Oui ben allez les chercher ailleurs.
Oui mais il paraît qu'il y a un roux-doudou dans cet hôpital.
Je ne comprends rien à ce que vous dites, dégagez du hall.
Excusez-moi, est-ce que je vais attendre encore longtemps ?
Le patient est occupé, il faut attendre madame.
Bougez pas !
Ah, qu'est-ce que c'est ?
Monsieur, je vous ai dit de nous laisser tranquille.
Vous avez un bulbe bizarre sur l'épaule.
Un quoi ?
Vous êtes médecin ?
Ne bougez pas, il faut que je l'attrape.
Est-ce que c'est grave ?
Non, non, mais ça va me rapporter des points.
Maintenant, vous allez nous laisser.
Ça y est, je l'ai attrapé !
Il me faut voir votre médecin.
Je dois vous laisser !
Non mais la sortie, c'est pas là, mais quel taré !
Bon, et moi, quand est-ce qu'on va s'occuper de moi ?
Je vous ai dit d'attendre le médecin. Ah, justement, le voilà.
Cécile, il y a un débile qui vient de rentrer dans le bloc opératoire en hurlant « je vais l'attraper ». Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est un médecin.
Ce débile est médecin ?
Mais non, pas du tout.
C'est un malade ?
Non plus, il dit qu'il chasse des Pokémon et qu'il y aurait un, je ne sais pas, un roux doudou, quelque part, je crois, dans cet hôpital.
Quoi ? Un roux doudou dans le bloc opératoire ? J'y vais ! Il est pour moi !
Mais docteur, et la patiente ?
Oui, et moi ?
Eh bien, espérez qu'il attrape le roux doudou. Et bien voilà, Radio Camping, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous les intervenants, Natacha Lapéro et Anaïs Major, pour leurs réponses bien senties et passionnantes sur le sport. Merci à Seb Lecoq pour des heures et des heures de films bis en DVD qui vont nous régaler cet été. Merci également à Maxime et à Sarah pour leurs imaginations débordantes. Et puis merci encore à Maxime, qui était aussi derrière la console pour la réalisation. Merci à Anna de m'avoir accompagnée. Et merci encore et toujours à Elsa à la coordination. Radio Camping revient demain en direct du jardin de Jonathan et Evelyne pour leur décrémaillère. Vous verrez, ça sera super. En attendant, on retrouve tout de suite Yumi. Bonne soirée et restez connectés.